Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Au Festival OFF d'Avignon, il est question de théâtre et c'est bien la moindre des choses. Mais de temps en temps, les lieux du théâtre se prêtent aussi à d'autres emplois de la scène et notamment à la musique. Et s'il y a un lieu qui est agréable pour ça, c'est bien la chapelle de l'Oratoire. Cette drôle de chapelle qui se trouve rue Joseph Vernet, qui a un plan ovale et dans laquelle on peut profiter d'une belle ambiance de sérénité et d'apaisement. Et un lieu qui a été construit pendant la période baroque où on obligeait les jeunes filles à mettre leur violoncelle sur les genoux et non pas le poser entre les jambes comme le faisaient les hommes. Eh bien, c'est un joli pied de nez que vous faites à ces tenants de l'ancienne école, j'ai envie de dire, puisque vous-même, vous jouez du bandoneon en le posant sur vos genoux et en faisant exactement ce que vous voulez avec Louise Jalu. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, du violoncelle au bandoneon, eh bien, pourquoi pas, ça peut être aussi un symbole d'émancipation féminine. En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça quand je vous ai vu jouer tout à l'heure. Et vous êtes venu représenter avec ce solo de bandoneon, votre nouveau projet musical qui s'appelle Francesita, que vous interprétez à 13h à la chapelle de l'Oratoire, donc jusqu'au 26 juillet, pratiquement jusqu'à la fin du Festival OFF. Vous avez joué pendant la première semaine du festival, vous jouez pendant la dernière semaine. Qu'est-ce que vous faisiez pendant la semaine entre les deux? Vous avez fait une telle brinque pour la victoire des Bleus que finalement vous avez mis une semaine à vous remettre de la gueule de bois, c'est ça?
C'est ça, ouais. Je faisais du bandoneon effectivement pour fêter ça. Donc non, j'ai pas arrêté de travailler, mais j'étais pas loin à Tarascon, où il y a lieu un stage de tango, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, l'année prochaine.
Très bien. Et donc, vous avez remonté le Rhône pour revenir vers nous, un petit peu comme les saumons remontent les fleuves pour retourner aux origines. Hein, voilà, et bien, vous faites preuve de la même vigueur d'ailleurs que ce noble animal. Je tiens à le préciser puisque c'était un bonheur de vous voir en concert tout à l'heure dans ce solo de bandoneon, disais-je. Alors, le bandoneon, un instrument qui se prête évidemment à l'univers du tango, ça va de soi. Un instrument qui se prête aux arrangements d'orchestre notamment. Ça a été le cas avec les grands orchestres classiques. Et à d'autres arrangements peut-être plus en formation plus intime, les quartets, tout ça, les quatuors et des arrangements de jazz, comme ça a été le cas à partir des années 50, notamment avec Astor Piazzolla. Et tout ça, vous pourrez l'expliquer beaucoup mieux que je ne saurais le faire, notamment avec votre collègue Bernard Cavana. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes un homme de l'ombre, un petit peu comme moi à la radio, hein, ça nous fait... Mais d'ailleurs, tiens, vous appelez Bernard Cavana, je sais que le professeur Choron avait chanté des tangos, venez, on fait un truc tous les deux.
Ah oui, bien sûr.
Non, on va épargner ça aux éditeurs. Ouais. Mais toujours est-il que vous êtes un homme de l'ombre et vous avez fait l'arrangement des tangos qu'interprète Louise. En fait,
on a travaillé en collaboration en fait, à partir de tangos anciens des années 20 et 30 qu'on a remis un peu au goût du jour. Mm-hmm. Avec Louise aussi bien dans les arrangements pour quartet ou alors avec d'autres invités qu'en solo. C'est un double travail en fait, c'est refaire ressurgir une musique d'Enrique Delfino qui est un grand pianiste des années 20-30.
La période classique finalement.
Période très classique, mais on l'a avec une vision détournée. Mais Louise, toi tu vas en parler très bien,
oui,
de toutes ces femmes qui ont fait naître le tango. Alors,
parce que tous les morceaux que nous avons réarrangés sont en fait des tangos chantés. Et les tangos chantés à l'époque avaient des poèmes qui parlaient, de la situation de femmes qui ont été victimes de la traite des blanches, et qui ont aussi été en quelque sorte les mères du tango. C'est de ça dont le spectacle parle. Et c'est une façon aussi de porter un regard féminin aussi sur le tango. Alors pour moi, c'était très important de revenir aux origines. Mmh. Et ces femmes qui donc vivaient dans les bordels sont à l'origine aussi de nombre d'échanges culturels qui a eu lieu dans cette musique et qui ont aussi façonné le tango.
Voilà, parce que je vous taquinais un petit peu tout à l'heure à propos de la position de l'instrument qui pourrait, au XVIIe siècle, je suis sûr qu'encore aujourd'hui, il y aurait des imbéciles pour crier au scandale en voyant une femme agiter les jambes alors que l'instrument se convulsionne et que nous, de le public, on voyage, parce que vous êtes immobile pendant une heure, mais nous, soyez sûr qu'on fait un voyage immobile, justement. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro, par contre, parce que si vous êtes très belle quand vous interprétez le tango, on aimerait bien quand même connaître un petit peu mieux votre voix. Voilà. Et quoi qu'il en soit, eh bien justement, vous avez un parti pris dans ce nouveau projet musical, Louise Jalu, avec ce projet musical qui s'appelle Francesita, qui signifie en espagnol « petite française ». Et en fait, votre postulat dans ce projet musical, on parlera du disque un petit peu après, bon, justement au niveau des arrangements, mais le postulat, le thème de ce projet musical, en fait, c'est de parler du mouvement, des mouvements migratoires qui ont peuplé Buenos Aires, mais par un prisme particulier, celui des femmes qui, en fait, faisaient l'objet de la traite des Blanches qui fuyaient un petit peu, c'était souvent des Juifs d'ailleurs, qui fuyaient l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est, et, ou parfois tout simplement la misère à Londres ou à Paris, quoi, et qui allaient en Argentine, mais qui étaient prises en main par des réseaux, etc. Enfin bref, tout ça, ça a été un petit peu votre postulat. Comment vous avez découvert ce thème, vous ?
Alors, j'ai lu un bouquin, un livre d'Albert Londres, donc grand journaliste qui a mis au goût du jour toute cette situation.
Il lui-même était journaliste pour la presse écrite au début du XXe siècle.
Oui, c'est ça. Il est mort en 1947, mais lui, il a infiltré le milieu de la mafia, en fait, en Argentine.
Et pour pouvoir écrire ce livre, il a rencontré donc tous les macros, les filles, et il est allé sur le terrain et il a tout écrit dans son livre sur le chemin de Buenos Aires. Et c'est en lisant ce livre et en le rapprochant à l'histoire du tango et aux poèmes qui figurent dans la littérature du tango que j'ai voulu en faire le lien, vraiment.
D'accord. Et pour ma part, c'est vrai que j'avais découvert ce thème, mais je n'avais pas pensé que c'était à cette échelle-là, telle que des journalistes comme Albert Londres ont pu le révéler. C'est l'auteur Hugo Pratt, dans une de ses aventures de Corto Maltese, qui parle justement de ce thème de la traite des Blanches. Bref, donc on peut avoir dans diverses œuvres artistiques ou des enquêtes journalistiques que ce phénomène a eu une ampleur considérable, même si, comme c'est lointain, on a fini par l'oublier. Mais il en reste une trace dans un style musical, en tout cas qui me tient à cœur et qui est l'objet de votre numéro, notamment de votre concert, eh bien c'est le tango. Et comment justement il reste cette mémoire reste sensible dans les musiques, justement?
Alors on en retrouve en fait plein de traces de musique et de cultures différentes. On a beaucoup de notamment dans les thèmes d'Enrique Delfino, qui lui-même est d'origine italienne, parce que ses grands-parents étaient italiens. Et il a ce goût pour l'opéra italien, et on retrouve vraiment ça dans ses compositions. Et donc c'est pour faire le lien entre l'Europe et l'Argentine, et aussi le passage aussi du tango à Paris, parce que c'est en fait une fois que le tango est passé par Paris qu'il a été accepté par la bourgeoisie en Argentine, et finalement qu'il est devenu la culture des habitants de Buenos Aires. Je dis bien des habitants de Buenos Aires parce que finalement il y a beaucoup plus de folklore. Le tango fait de 10% la musique qui existe en Argentine. Voilà, donc on retrouve tout ça en fait dans ses compositions, et c'est ce mélange culturel qui est fascinant.
Et les titres même des pièces font allusion à ces femmes. La Francesita, c'est la petite française, mais la petite française qui qu'on trouvait dans les bordels, mais il y a aussi la Negra, il y a Claudinette, il y a Maria,
il n'y a pas que Nini Potien chanté par Aristide Bruyant à partir de Paris. Il y avait l'équivalent à Buenos Aires, je veux bien vous croire. Alors effectivement, tout ça, moi, ne parlant pas l'espagnol, le comprenant très mal, j'entends quelquefois en plus, c'est l'argot argentin, donc c'est pas un espagnol dont on a l'habitude ici en Europe, avec beaucoup de chuintements et des archaïsmes, etc. Un petit peu comme le français du Québec est très différent d'une autre. Mm-hmm. L'espagnol d'Argentine est très différent de l'espagnol de la métropole. Quoi qu'il en soit, on peut ressentir dans les paroles cette mémoire, cette nostalgie qui est un peu la matière première, aussi une des matières premières du tango. Mais vous ne vous arrêtez pas à ça, puisque entre les morceaux, pendant ces intermèdes, comme la plupart des musiciens, vous vous adressez à nous et pour nous expliquer un petit peu, maintenant je vais vous jouer ceci, je vais vous jouer un morceau, que je l'ai arrangé, c'est Bernard Kevana qui l'a arrangé, par exemple, ou bien vous nous expliquez un petit peu comment vous l'avez découvert, etc. Mais vous ne vous arrêtez pas à ça, vous nous récitez certains passages de poèmes, notamment par moment.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est des traductions des poèmes, des tangos que j'interprète. Et donc, dans ces poèmes, il y a La Petite Française, il y a Grisette, on parle de Marguerite Gauthier, tout ça, c'est aussi en rapport avec le lien qui existe entre Buenos Aires et Paris. On parle de la vie de ces femmes, mais c'est aussi des extraits du livre d'Albert Londres qui fait de façon très romancée un tableau de la situation dans laquelle les femmes étaient et où les hommes attendaient. Il décrit ça avec tellement de...
d'acuité, de justesse.
Ouais, c'est très juste, c'est très bien, vraiment très bien écrit. Je recommande vraiment ce livre, qui est très facile à lire d'ailleurs. Et donc tout ça, c'était aussi une façon de mettre le public dans cet univers pour qu'il puisse vraiment ressentir l'atmosphère. Quoi.
Mais excusez-moi de vous mettre en porte-à-faux comme ça, mais ce livre, vous l'avez vraiment découvert par hasard ou vous l'avez un peu cherché? Parce que, excusez-moi, ouais. Albert Londres, quand on pense à cet homme-là, on pense à ses voyages en Extrême-Orient, on ouais. pense au travail qu'il a fait pendant la Première Guerre mondiale au Levant et dans les Balkans, on pense à son travail sur les conditions de travail, justement, à propos des quasi-esclaves noirs. L'esclavage avait été aboli, mais la condition de travail des Noirs en Afrique, dans les colonies, ne valait pas beaucoup mieux. Et le prix Albert Londres est justement un prix pour les journalistes d'investigation encore aujourd'hui. Mais quid du tango? J'ai regardé sur sa page Wikipédia, j'ai vérifié, aucune mention du travail. Alors la page Wikipédia n'est pas forcément super bien écrite, soit, mais il n'y a aucune mention. Mais, écoutez, ça va être votre job justement de préciser cet ouvrage, parce que je n'ai trouvé une mention nulle part.
Ouais. Comme moi je connais très bien l'histoire du tango et je m'intéresse évidemment à toute sa littérature, c'est en redécouvrant des écrits sur Buenos Aires que je suis tombée sur ce livre. Mais vraiment, si, c'est vraiment par hasard.
Un heureux hasard, alors.
Heureux hasard.
Bon, bah,
très
bien
heureux
joué.
Hasard.
Et un heureux hasard, par contre, là, ça ne tient pas forcément du hasard. C'est le fait que vous ayez pu faire vos études au conservatoire de Gennevilliers, où il y a eu une des premières classes de bandoneon, qui avait d'ailleurs une pédagogie, enfin, peut-être pas une pédagogie, mais en tout cas, cette initiative un peu particulière.
Oui, à Gennevilliers, c'est un peu par hasard. On avait invité un trio charismatique à l'époque. C'était Juan José Mossalini, Bettelmann.
Oh, j'adore. Ah, il est très gentil, voilà. Cet homme-là. Oui.
Et Caratini. Et on a eu un tel succès avec ce concert qu'on a eu l'idée de monter des classes de bandoneon avec César Strossio, qui était l'ancien bandoneon du Quartetto Cedrone. Donc on avait ces deux profs emblématiques.
Juan José Mossalini, le Quartetto Cedrone. Vous nous sortez ces noms-là comme ça, tranquille, alors qu'en fait, c'est des références en Europe.
Et donc, on a formé plus de deux générations maintenant de bandoneonistes.
C'était dans les années 90 ?
88.
Ok, presque.
Et 88. Et Louis est la deuxième génération de bandoneonistes qui est formée à Gennevilliers. Oui. Et elle-même est prof maintenant, professeure de bandoneon là-bas. Et elle est en train de former une troisième génération.
on travaille.
Et à Avignon, il y a aussi une très très belle classe tenue par aussi une ancienne étudiante de notre conservatoire, Yvonne Anne.
Vous répondez la bonne parole, voilà. Ouais. Ben ça se diffuse moins aussi vite que les virus, et pour le coup, on ne s'en plaindra pas. Et c'est vrai qu'à Avignon, j'avais eu l'occasion d'assister à quelques concerts de bandoneon. J'ignorais qu'ils avaient une classe spécialisée, donc autant pour moi. Et pour parler un petit peu de votre disque qu'on peut se procurer à l'issue du concert, il y a deux CD, en fait. Vous appelez ça une face A, une face B, pour faire référence au vieux vinyle. En fait, il y a vos compositions, enfin, que vous interprétez en solo, quelques compositions, quelques reprises de morceaux classiques, et sur l'autre disque, là, c'est vous jouez en quartet avec d'autres musiciens. Donc on a deux aspects un petit peu de votre talent et de votre collaboration à tous les deux, Bernard et Louise. Alors, précisons tout de même à propos du lieu, la chapelle de l'Oratoire, que c'est un lieu qui se prête chaque année au festival, pendant le moment du festival off, à la musique. On a notamment Francesco qui chaque année joue de cet instrument antillais un petit peu particulier, là qui nous vient des Caraïbes, fait que ce son qui rappelle un peu les steel drums. On a aussi une de vos collègues avec laquelle vous avez collaboré qui s'appelle Caterina Fotinaki, qui vient présenter aussi un concert là encore. Et donc vous, Louise, qui présentez ce spectacle, enfin ce numéro, je ne sais pas comment dire, ce concert en tout cas avec votre projet musical Francesita jusqu'au 26 juillet à 13h. Quels sont vos projets pour l'année à venir ?
Eh bien, il y a un projet avec Gustavo Beitelmann, justement, qu'on a cité tout à l'heure, qui a été un des premiers concerts qui a eu lieu en tango à Gennevilliers. Et on prépare voilà, un projet ensemble en quintette.
En quintette. Eh bien, justement, bah, une voix de tête, c'est celle que vous portez de temps en temps pendant cette interview, ou alors par bandoneon interposé, puisque vous avez transposé en solo musical des tangos chantés. C'est un petit peu le paradoxe de votre démarche, mais on ne s'en plaindra pas. Et d'ailleurs, on va se quitter avec quelques notes de bandoneon, justement. Merci Bernard et merci surtout
merci
Louise
beaucoup.
D'être venue nous parler un petit peu de tango sur Osmose Radio. On va se quitter, chers amis, disais-je, avec quelques notes de musique. Et notamment ben, un des arrangements que vous avez fait de ce tango classique d'Enrique Delfino avec le titre La Montonera. Mm-hmm.